Soyez les bienvenus, la France bouge sur Europe 1, même l'été, avec cette semaine Raphaël Duchemin. Raphaël Duchemin vous donne rendez-vous à 13h10 et on parlera aujourd'hui de shopping en ligne. Pour le moment, il est midi et demi, l'heure de votre journal de la mi-journée avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour dérouler l'actualité de ce lundi 3 août.
On insiste beaucoup d'abord sur la pédagogie. C'est l'intérêt de tout le monde de faire ça, hein. C'est pas pour les embêter. Et en même temps, il faudra un peu de fermeté pour celles et ceux qui se refuseraient à comprendre.
Hein. Jean Castex, le Premier ministre, masqué dans les rues de Lille ce matin, alors que la métropole lilloise met en œuvre aujourd'hui l'obligation du port du masque dans les lieux publics et en extérieur. Nous serons sur place dans un instant. Masque obligatoire également pour 69 communes du département de la Mayenne. Charles Guyard nous dira si cela est globalement respecté. En France, embouteillage aux portes des laboratoires pour se faire dépister. Et nous verrons que la situation est tout aussi difficile chez nos voisins allemands. Dans l'actualité également de ce lundi, la mise en examen pour homicide involontaire du laboratoire Sanofi dans l'affaire de la Dépakine.
Le laboratoire Sanofi est aujourd'hui dans une position de déni de responsabilité. Le laboratoire Sanofi refuse d'indemniser les victimes et l'urgence c'est maintenant.
Le dossier judiciaire s'alourdit pour le géant pharmaceutique français. Explication de Guillaume Billet à suivre. À Gênes, en Italie, la renaissance du pont Morandi presque 2 ans après la catastrophe.
J'arrive pas à me relever parce que c'est 43 vies qui ont été sacrifiées pour avoir droit à un nouveau pont. Enfin, moi, je le prends comme ça, c'est peut-être idiot, hein, mais voilà.
L'inauguration du nouveau viaduc cet après-midi ravive des souvenirs douloureux pour les familles des victimes. La météo, le programme du jour, Valérie Darmon.
Bonjour à tous. Eh bien, la France qui est très mitigée, côté ciel comme côté température, avec des valeurs respirables certes, mais un peu faibles pour la saison par endroit, entre 20 à Saint-Brieuc et 30 degrés à Marseille. Et côté ciel, c'est très nuageux partout et même très pluvieux sur les reliefs de l'Est.
Merci Valérie, on vous retrouve peu avant le journal de 13h. Voilà pour le sommaire.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
1 200 000 habitants potentiellement concernés par le port du masque en extérieur. Jean Castex est donc depuis ce matin dans la métropole lilloise alors qu'entre en vigueur aujourd'hui l'obligation de porter le masque dans certains lieux publics ouverts. À Lille, mais aussi dans tout le département, le département du Nord, le taux d'incidence du Covid a plus que doublé en 3 semaines. Dynamique très inquiétante, disait par exemple ce matin Patrick Goldstein, le chef du pôle des urgences au CHU de Lille. Maximilien Carlier, vous êtes correspondant d'Europe 1 dans le Nord et vous suivez depuis ce matin donc cette visite du Premier ministre pour Europe 1.
Oui, effectivement, le Premier ministre est arrivé à 9h à l'Agence régionale de santé pour un point épidémiologique sur la situation dans la Hauts-de-France. Direction ensuite, eh bien, le centre-ville de Lille. Une déambulation sur la Grand Place, puis Place Riour. Il a pris un café au restaurant La Chicorée, quelques échanges avec les commerçants, mais surtout avec des policiers municipaux nationaux et la police au transport. D'ailleurs, à la sortie d'une bouche de métro, le sujet abordé par Jean Castex, c'est bien sûr le port du masque obligatoire.
Et là, les premiers enseignements de ce matin, c'est quoi? Les gens respectent?
On voit quand même quelques-uns finalement qui passent ici sans masque, mais bon voilà, on sensibilise, mais pour l'instant oui, c'est respecté.
À ce moment-là, vous allez leur expliquer, voilà. Ils vous disent quoi?
Soit ils ne savaient pas, donc voilà, ouais. Un peu de sensibilisation là-dessus.
Mais il n'y a pas de contestation frontale, on va dire, ou de principe?
Pour l'instant, non.
On insiste beaucoup d'abord sur la pédagogie, c'est l'intérêt de tout le monde de faire ça, hein. C'est pas pour les embêter. Et en même temps, il faudra un peu de fermeté pour celles et ceux qui se refuseraient à comprendre. Hein.
Bientôt la prévention va laisser place à la verbalisation, 135 euros d'amende pour non-port du masque. Depuis ce matin, la mesure est globalement respectée aux abords des gares, dans l'hypercentre. Il faut dire qu'il y a des affiches installées partout dans l'île pour ceux qui oublient.
Merci Maximilien Carlier à Lille pour Europe 1. Oh les masques, l'injonction vote aussi pour 69 communes du département de la Mayenne, où là aussi on constate une circulation active du virus. Charles Guyard, vous êtes dans une petite commune près de Laval. Comment cette mesure est donc acceptée ce matin?
Eh bien, au premier abord, ici à Saint-Berthevin, à 2-3 exceptions près, la mesure est plutôt bien acceptée et respectée.
Je la comprends parfaitement et ça aurait dû être mis en place depuis un certain temps.
Je trouve que c'est une bonne décision, une décision nécessaire et indispensable pour la collectivité.
Moi, je pense que c'est logique de le mettre, hein. Puisque le virus existe toujours, il faut se balader avec des masques et puis c'est tout.
Des masques qui étaient déjà devenus la norme dès la semaine dernière dans les rues des 4 grandes villes du département, dont Laval. En élargissant cette mesure à 65 autres communes, le préfet de la Mayenne entend surtout éviter de passer au stade ultime du protocole sanitaire. Jean-Francis Treffel.
L'OMS considère aujourd'hui que le virus peut se transmettre par aérosol Et c'est pourquoi le masque me paraît la solution adéquate. Il s'agit absolument d'éviter ce reconfinement.
Un reconfinement qui n'est donc pour l'heure pas à l'ordre du jour. La nouvelle mesure concerne 192 000 habitants sur les 320 000 que compte la Mayenne, département dans lequel une douzaine de personnes sont à ce jour hospitalisées, mais aucune en réanimation. Un département aussi que la Belgique a par ailleurs interdit à ses ressortissants depuis ce week-end.
Charles Guilliard, l'un des correspondants d'Europe 1 dans la région ouest de la France. Alors l'autre moyen pour enrayer la propagation du virus, c'est la généralisation des tests de dépistage, objectif fixé par les autorités sanitaires, 700 000 tests par semaine. Et pourtant, le compte n'y est pas. Dans certaines régions, il y a de véritables embouteillages aux portes des laboratoires. Et quand les tests sont effectués, eh bien, des résultats qui se font attendre. Alors, question, Victor Delande, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui coince encore dans le système de dépistage ?
Depuis un arrêté pris par le ministre de la Santé, Olivier Véran, le 25 juillet dernier, vous n'avez plus besoin d'ordonnance pour vous faire tester dans les laboratoires et vous faire rembourser. Résultat, la demande a explosé ces derniers jours. Les laboratoires sont débordés et pas toujours avec les bons patients. Je m'explique, si vous avez des symptômes importants, vous serez logé à la même enseigne que n'importe quelle autre personne qui souhaite se faire dépister. Et les laboratoires ont de plus en plus de mal à livrer les résultats en 24 ou 48 heures. Vous pouvez donc parfois attendre plusieurs jours pour savoir si vous êtes positif ou non. Et pendant ce laps de temps, vous allez potentiellement contaminer d'autres personnes sans le savoir. On est en capacité de tester massivement aujourd'hui, m'expliquait tout à l'heure un directeur de laboratoire, mais on manque de stratégie globale. Il faut selon lui qu'il y ait des priorités en fonction des symptômes ou non des patients. Il faut anticiper davantage avec tous les retours de vacances. Encore plus de Français vont vouloir savoir s'ils sont infectés ou non. Il faudra donc plus de bras, plus de préleveurs donc pour effectuer tous ces tests. Enfin, il faudrait selon les spécialistes mieux cibler les clusters qu'on identifie pour tester massivement la population dans ces zones à risque.
Merci Victor Delande. Alors, nous avons voulu voir quelle était la situation ailleurs en Europe, notamment en Allemagne, où là aussi, les autorités ont mis au point un plan ambitieux, en tout cas sur le papier, pour tester et dépister la population. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Alors Hélène, vous avez voulu vous-même ce matin vous faire tester, et le constat, c'est que visiblement chez vous, c'est aussi loin d'être facile, hein.
Effectivement, porte close devant le centre de test de mon arrondissement de Berlin. Il faut absolument avoir un rendez-vous au préalable et la ligne du numéro vert est sans cesse occupée. Alors j'ai bien reçu une réponse par mail me conseillant de contacter une liste de cabinets médicaux en ville. Bilan, au plus tôt, je pourrais me faire dépister demain matin, soit 3 jours après mon retour de France, alors que normalement, depuis ce week-end, tous les vacanciers qui rentrent de l'étranger doivent pouvoir faire un test. La logistique ne suit pas. C'est obligatoire, ces tests, pour les gens qui rentrent de 127 pays du monde classés à risque, comme la Turquie par exemple, qui est, on le sait, une destination de vacances très prisée des touristes allemands. Alors en Europe, seul le Luxembourg et 3 provinces espagnoles, la Catalogne notamment, figurent sur cette liste des zones à risque. La France n'y est pas pour l'instant, mais il est très recommandé de se faire dépister, et c'est le cas aussi quand on rentre de Grèce ou d'Italie. C'est une démarche gratuite, il n'y a aucune somme à avancer, et donc c'est très incitatif. Du coup, ce matin, à l'aéroport de Francfort, il fallait attendre plus de 2 heures pour avoir accès au centre de test qu'un laboratoire a installé dans le terminal principal. On a retrouvé ici les niveaux de contamination du mois de mai. C'est très inquiétant et les laboratoires sont sceptiques, comme en France, avec les congés d'été. Il leur manque des bras, des effectifs pour répondre à toutes ces demandes de tests.
Merci Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin.
Il est 12h38.
Restez avec nous. On marque une première pause dans un instant. Sanofi, mise en examen pour homicide involontaire dans l'affaire de la Dépakine. Un nouveau cap franchi dans cette enquête.
La suite du journal sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Homicide involontaire. Une nouvelle mise en examen pour le laboratoire Sanofi dans l'affaire de la Dépakine. Le groupe pharmaceutique français était déjà poursuivi pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Mais aujourd'hui, Guillaume Billet, pour les magistrats du tribunal judiciaire de Paris, les charges s'alourdissent.
Oui, les juges d'instruction estiment que la responsabilité de Sanofi Aventis pourrait être engagée non plus seulement dans des malformations ou des troubles neurologiques de nourrissons dont les mères ont pris de la Dépakine, mais aussi dans les décès de 4 bébés survenus entre 1990 et 2014. C'est effectivement une mise en examen supplémentaire que le groupe pharmaceutique conteste devant la chambre de l'instruction. Une attitude que dénonce maître Charles-Joseph Houdin, l'un des avocats des familles de victimes.
Le laboratoire Sanofi est aujourd'hui dans une position de déni de responsabilité. Et s'est même lancé dans une guérilla judiciaire extrêmement difficile à vivre pour les victimes, puisque le laboratoire Sanofi refuse d'indemniser les victimes. Et l'urgence, c'est maintenant. Vous avez ces enfants qui sont malades, à cause de la dépakine, qui souffre de malformations et de troubles neurodéveloppementaux, eh bien l'urgence pour elle, c'est pas d'attendre des années avant qu'un procès intervienne. L'urgence, c'est maintenant, pour payer les aides scolaires, pour prendre en charge les aides médicales, les aides paramédicales. L'urgence pour ces enfants qui souffrent, c'est maintenant.
L'avocat ajoute une quarantaine de nouvelles plaintes devraient être bientôt déposées. Quant aux juges d'instruction, ils ont assorti cette mise en examen d'obligations financières lourdes, révèlent nos confrères du Monde. 8 millions d'euros de caution pour Sanofi, plus une garantie bancaire de 80 millions qui viendrait directement indemniser les victimes en cas de condamnation.
Merci Guillaume Billet du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1 midi 42, le journal La Suite, Kenel Gougelot.
Voilà peut-être une lueur d'espoir pour le marché automobile français. Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 4% le mois dernier grâce évidemment aux mesures de soutien décidées par le gouvernement. Mais attention, à partir d'aujourd'hui, la prime à la conversion est revue à la baisse. Elle va revenir à son niveau d'avant-crise et elle sera prioritairement attribuée aux ménages les plus modestes, Élise Dangean.
À partir d'aujourd'hui, on revient au barème initial. Concrètement, ça veut dire que si vous souhaitez vous offrir un véhicule thermique, essence ou diesel, votre revenu fiscal de référence ne devra pas dépasser les 13 500 euros. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un coup de pouce de 1 500 à 3 000 euros. Mais attention, il vous faudra toujours choisir un modèle récent, critère 1 ou 2. D'ailleurs, la prime reste plus avantageuse si vous voulez passer à l'électrique ou à l'hybride rechargeable. 5 000 euros d'aide si votre revenu fiscal est inférieur à 6 300 euros. Ou si vous êtes, pour le travail, un gros rouleur. Pour ceux qui sont au-dessus du plafond, le montant de la prime s'élève à 2 500 euros. Dernière condition pour bénéficier de cette nouvelle prime à la casse, et là, ça ne change pas, votre voiture actuelle doit être un modèle essence immatriculé avant 2006 ou un diesel immatriculé avant 2011.
Élise Dangean pour Europe 1. Voilà qui va peut-être calmer l'inquiétude de Donald Trump. L'américain Microsoft annonce avoir racheté la partie américaine de l'application chinoise TikTok. Le patron de la Maison-Blanche avait, vous le savez, menacé ce week-end de bloquer l'application aux États-Unis, soupçonné d'être utilisée par les services de renseignement chinois. En France, après YouTube, ce sont désormais Facebook et Instagram qui ont décidé de bannir Dieudonné de leur plateforme. Décision prise en raison de publications insultantes pour la communauté juive et les victimes de la Shoah. Ce sont des paysages que vous traversez parfois, sans doute même sur la route des vacances, ces champs de blé moissonnés et ces ballots de paille qui annoncent la fin des moissons dans certaines régions du Nord notamment et de la Normandie aussi. La récolte de blé n'est pas encore complètement terminée, mais d'ores et déjà, les céréaliers s'inquiètent d'un bilan particulièrement désastreux. Olivier Samin, il se dit même que 2020 pourrait être l'une des plus mauvaises de ces 30 dernières années.
Oui, la référence qui revient le plus dans les conversations, c'est celle de l'année 2016. La moisson cette année-là avait été catastrophique avec, s'agissant du blé tendre, celui qui sert à la fabrication du pain, 27 millions de tonnes récoltées en France, un plus bas historique. Pour 2020, si on atteint les 30 millions de tonnes, on pourra s'estimer heureux, disent les céréaliers. En cause, un automne pluvieux qui a empêché une bonne plantation, un hiver sans gelée qui a fait proliférer les pucerons, puis un printemps très sec qui a contrarié la croissance de la plante. Pour le président des producteurs de blé, Éric Thirouin, certains céréaliers vont avoir du mal à s'en remettre, surtout si peu de temps après 2016.
Ça fait seulement 4 ans, donc beaucoup ont dû emprunter pour essayer de passer cette année 2016 et les emprunts se sont étalés sur 5 à 7 ans et là vous êtes au bout de 4 ans, pouf, vous recommencez. Là effectivement, on a vraiment une agriculture céréalière qui est à bout de souffle dans bon nombre de régions françaises.
Alors la seule note positive, c'est la qualité du grain qui, cette année, disent les producteurs de blé, est au rendez-vous. Reste l'inconnu du prix, là c'est à l'échelle mondiale que ça se détermine, et la France a face à elle des poids lourds comme la Russie, l'Ukraine ou les États-Unis, dont on ne connaît pas encore avec précision les niveaux de production.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Alors on vient de l'entendre, la sécheresse est en partie responsable de ces mauvais niveaux de production pour les céréaliers. Une sécheresse qui impose également une vigilance maximale autour du risque des feux de forêt dans le sud de la France. On l'a vu la semaine dernière à Anglet ou encore ce week-end en Ardèche. Et dans les Bouches-du-Rhône, on s'attend aujourd'hui et demain à un fort mistral qui pourrait eh bien, lui aussi augmenter les risques. Et sur place, les pompiers sont sur le qui-vive. Reportage Stéphane Frangy.
Sur le qui-vive depuis sa tour de contrôle, le capitaine Stéphane Guyot des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône le sait bien, le risque incendie vient de monter d'un cran.
C'est un point de bascule avec une hausse des températures, un stress hydrique des végétaux. Le Mistral annoncé jusqu'à mercredi, ce qui va nécessiter une mise en place des moyens adaptés à ce niveau de risque. À peu près 1000 sapeurs-pompiers prêts à lutter contre les départs de feu.
Des renforts arrivent d'autres départements. Certains sont en caserne, d'autres déployés par groupe de 2 camions sur le terrain, positionnés sur des points stratégiques, ce qui peut s'avérer décisif. Comme ce départ de feu en pleine campagne près d'Aix-en-Provence, le lieutenant Michael Chaban est rapidement sur les lieux avec ses hommes pour noyer ce départ de feu.
Il y avait un poteau électrique, là, ça fait des étincelles, ça tombe au niveau du sol et le feu a rapidement pris de l'ampleur, 6 000 m². Oui, ça va vite, mais heureusement qu'on avait un premier fourgon prépositionné qui est arrivé le premier sur les lieux, très rapide. Pour moi, 3 gardes successives, 3 départs de feu.
Un été à risque donc, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont déjà enregistré 400 départs de feu depuis début juillet. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Midi 47, la suite du journal sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Il avait été miraculeusement épargné par les flammes lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris l'an dernier. L'orgue de la cathédrale va être démonté à partir d'aujourd'hui en vue de sa restauration. Bonjour, Laure d'Autriche.
Bonjour.
Alors, c'est un chantier particulièrement délicat pour ce joyau vieux de près de 3 siècles, c'est ça?
Oui.
Et cela va se dérouler en plusieurs étapes, Laure.
Oui, le démontage de l'instrument va se faire progressivement. Dès aujourd'hui, le démontage des claviers, puis des 8000 tuyaux. Et cette étape-là va se poursuivre jusqu'à Noël. Même si l'orgue n'a pas été touché par les flammes, il est recouvert aujourd'hui de poussière de plomb. Il faut tout décontaminer, puis entamer la phase de restauration. C'est un énorme chantier, l'orgue est très fragile. C'est ce que dit Olivier Latrie, l'organiste de Notre-Dame.
C'est composé de milliers de pièces de bois, de plomb et j'en passe. Il y a des tuyaux qui font plus de 10 mètres de haut, il y a des tuyaux qui font moins d'un demi-centimètre. Si vous les manipulez un petit peu trop violemment, on perd le son du tuyau. Il y a un rapport presque charnel à cet instrument. J'y ai passé des heures, de jours, de nuit, à travailler, à enregistrer, à jouer des concerts, à jouer des offices. Je me sens un petit peu orphelin et j'attends vraiment la résurrection.
Alors, il va falloir nettoyer l'orgue de Notre-Dame, le restaurer bien sûr et le remonter. Tout ça va prendre plusieurs années. C'est un monument d'une valeur inestimable, connu pour son gigantisme, mais aussi pour sa qualité de son exceptionnelle. Il faudra 6 mois à la toute fin pour accorder l'orgue et qu'on le retrouve tel qu'il était finalement avant l'incendie. L'orgue devrait pouvoir être joué à nouveau en 2024.
Merci Laure, Laure d'Autriche. Restez avec nous dans un instant. On va parler en quelque sorte d'une autre renaissance, celle du viaduc de Gênes. 2 ans, presque jour pour jour après la catastrophe de l'effondrement qui avait fait 43 victimes.
Midi 51 sur Europe 1, la suite du journal Lionel Gougelot.
Direction Gênes en Italie. Gênes donc où cet après-midi, le nouveau pont Morandi sera inauguré par les autorités presque 2 ans, jour pour jour, après son effondrement qui avait fait 43 victimes. Cette inauguration ravive forcément des souvenirs douloureux pour les familles de victimes italiennes, mais aussi françaises. On n'a pas oublié que 4 jeunes Français avaient trouvé la mort dans la catastrophe. Parmi eux, William Pousadou, dont la famille a renoncé à une procédure judiciaire faute de moyens. Sa maman, Véronique, a accepté à contre-cœur une indemnisation forfaitaire.
J'arrive pas à me relever et quand le mois d'août arrive, c'est encore pire. Et là, c'est sûr qu'il y a la reconstruction du pont, l'inauguration. C'est bien, moi je suis pas dans la haine, Je suis contente, entre guillemets, pour les Génois qui vont avoir un nouveau pont et je pense que pour eux c'était vraiment très important. Mais pour nous, c'est quand même compliqué, je veux dire. Parce que c'est 43 vies qui ont été sacrifiées pour avoir droit à un nouveau pont. Enfin, moi, je le prends comme ça, c'est peut-être idiot, mais voilà. Moi, ce que je voulais, c'est aller au procès. Et puis après, on nous a dit, ouais, mais ça va vous coûter des millions, parce que ça va durer très longtemps. Et donc, moi, j'ai pas les moyens. Je peux pas emmener ma famille à la ruine. Donc, on a été obligés d'accepter l'indemnisation. Mais en contrepartie, on n'a plus le droit de participer au procès. J'aimerais au moins qu'on me dise qu'est-ce qui n'a pas été fait ou qu'est-ce qui a été fait pour que ça arrive. Qu'ils ne soient pas partis pour rien. Même encore maintenant, je n'arrive pas à y croire. Je me dis comment un truc pareil a pu arriver.
Véronique Pousadou, des propos recueillis par Jeanne Bergaoui. Alors, on s'en souvient, cette catastrophe avait été l'occasion en France de s'interroger sur l'état de nos ponts. Une mission d'information sénatoriale avait recensé 25 000 ponts posant des problèmes de sécurité. Les élus réclamaient un plan Marshall, en quelque sorte, pour rénover ces équipements. Eh bien, un peu plus d'un an après, rien n'a changé. C'est ce que déplore Hervé Maurey, sénateur de l'Eure, qui avait présidé cette mission.
Quand on sait qu'il y a 10% des ponts, c'est-à-dire 25 000 ponts en France qui présentent un risque d'effondrement, c'est pour le moins léger de ne pas avoir pris nos préconisations plus à cœur. Nous avions, dans la loi de finances pour 2020, créé un fonds destiné à aider les communes à faire un diagnostic de leurs ponts, puisque la plupart des ponts sont sous la responsabilité des communes et sont dans un état particulièrement préoccupant. Et ces dispositifs que nous avions adoptés au Sénat ont été purement et simplement supprimés à l'Assemblée nationale à la demande du gouvernement. On n'a rien eu de concret, puisque la seule annonce qui consistait à dire que l'État lançait un recensement des ponts communaux et intercommunaux, aujourd'hui on ne sait pas du tout où ça en est, on n'a aucune information. On en appelle au sens de la responsabilité du gouvernement. Je crois que s'il y a bien un sujet sur lequel on ne doit pas jouer, sur lequel on ne doit pas faire des économies de bout de chandelle, c'est la sécurité de nos concitoyens.
Hervé Maurey, sénateur de l'Eure, président donc de cette mission d'information sur l'état des ponts.
Europe 1, midi 54, le journal La Suite, Yannel Gougelot.
Ce sera sans doute l'un des best-sellers, hein, disons-le comme ça, de cette saison estivale. Le tourisme rural et montagnard, une solution qu'ont choisi visiblement beaucoup de vacanciers français contraints de rester dans notre pays pendant les vacances. La montagne où les contraintes du déconfinement sont finalement peut-être un peu moins sévères. C'est ce qu'a constaté Johanna Chabas en reportage à Choranche dans le Vercors.
C'est grandiose, c'est impressionnant, on se sent tout petit. On a acheté les bonnes chaussures de rando et puis c'est parti.
Normalement, Karine, venue d'Île-de-France, serait allée à la plage pour ses vacances. Cette année, elle a préféré l'air frais de la montagne. Elle n'est pas la seule, les chemins de terre sont fréquentés, mais pour Patricia, le randonneur le plus proche est encore à bonne distance.
C'est tellement vaste que finalement, pas spécialement besoin du masque. On n'a pas besoin de le mettre comme sur les plages qui sont les uns collés à côté des autres, où on a eu beaucoup d'interdiction aussi.
Sur les chemins de randonnée, des vacanciers de passage, mais aussi de nombreux locaux qui s'autorisent seulement une escapade. Marc, qui vit près de Grenoble, le reconnaît. C'est aussi la gratuité des activités en montagne qui attire.
Si on avait pu partir ailleurs, on serait parti. Hein. Faut pas faire des mots. Le confinement a fait que les gens, là, financièrement, ils n'avaient pas les moyens de partir ailleurs. Hein.
Ils longent les falaises en voiture et s'arrêtent dès que possible pour prendre des photos, émerveillés par les paysages de sa région. Pour les sites touristiques, ici, cette présence de touristes et de locaux fait presque oublier l'absence de voyageurs étrangers. Choranche, Johanna Chabas, Europe 1.
Succès pour le tourisme rural, donc tourisme rural ou montagnard, mais catastrophe économique pour les salles de cinéma cet été. Malgré la réouverture des salles, le public n'est toujours pas au rendez-vous. Il faut dire qu'un certain nombre de sorties prévues ont été repoussées et cela se voit clairement dans les chiffres, disait ce matin Richard Patry, directeur de la Fédération des cinémas français, au micro de Sébastien Krebs dans la matinale d'Europe 1.
On fait à peu près 1 million d'entrées par semaine, quand l'année dernière, à la même époque, on en faisait 5. Donc voyez-vous, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre qu'avec 25% des entrées, c'est très très difficile de trouver une économie rentable.
Les plus grosses sorties ont été repoussées. Richard Patry, vous mettez en cause les distributeurs. Aujourd'hui, ils n'ont pas joué le jeu de la réouverture des salles, ils ne sont pas là.
Clairement, il nous manque des gros films américains. Et là, les Français, ils ne sont pas pour grand-chose, mais quelques gros gros films français qui, eux, ont aussi été repoussés. Et voilà, et dont même certains ont quitté complètement l'affiche pour aller sur des plateformes, ça oui, ça c'est clair que ça nous fait pas plaisir. Néanmoins, encore une fois, il s'agit pas de stigmatiser, on est tous dans le même bateau, on est dans une période de crise. Ce qu'il faut, c'est sauver le cinéma, et pour sauver le cinéma, il faut sauver les salles de cinéma, parce que si les salles de cinéma ferment en France, l'industrie du cinéma s'écroulera.
Richard Patry, le directeur de la Fédération des cinémas français, ce matin sur Europe 1. Et le symbole de cette crise de fréquentation dans les salles obscures, eh bien, c'est la fermeture exceptionnelle à partir d'aujourd'hui du Grand Rex à Paris, et ce pour l'ensemble du mois d'août. Il nous reste à voir la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Valérie Darmon, on respire enfin en ce début de semaine.
Et oui, enfin, et jusqu'à jeudi, parce qu'après les températures grimpent. En attendant, c'est vrai que... Oui, en attendant, elles varient entre 19 et 26 degrés du nord au sud. Elles sont un petit peu plus douces dans la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, avec un thermomètre qui affiche 26 à 31 et localement 33 dans le Var. Alors, je vous donne quelques maximales. 20, et c'est un peu juste pour la saison, à Saint-Brieuc, à Cherbourg et Boulogne-sur-Mer. 21 à Épinal, Aurillac et Brest. 22 à Montluçon, à Rodez, à Caen et La Rochelle. 23 degrés à Dijon, à Chartres et à Rennes, ainsi qu'en région parisienne. 24 à Vannes et Lyon. 25 à Toulouse et Bordeaux. 26 à Carcassonne. 27 à Manosque. 28 à Avignon et 30 degrés. À Nice, on voit qu'elle continue d'être contrastée, c'est maximal. Du côté du ciel, c'est moins contrasté. La perturbation qui traverse la France aujourd'hui, donnée ce matin des passages pluvieux sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au centre, eh bien, elle se décale maintenant vers l'est et elle arrose un petit peu les Hauts-de-France, la Bourgogne et l'Auvergne. En Alsace, sur le Jura et jusqu'aux Alpes du Nord, le temps devient franchement maussade au fil des heures. Il va même neiger ce soir sur les Alpes du Nord. Eh oui, au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Et sur les Alpes-Maritimes et la Corse, les averses localement orageuses vont aussi se développer. On a le Mistral et la Tramontane qui souffle à 80 km/h. Et partout ailleurs, c'est-à-dire sur l'ouest de la France, à l'arrière de cette perturbation, eh bien, les nuages alternent avec les éclaircies. Les deux se partagent le ciel assez équitablement, ma foi.
Merci Valérie Darmont, merci Géraldine.
Merci à vous Lionel, on vous retrouve ce soir à 18h. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Bientôt 13h.